À l'appel.
Je vous remercie. Monsieur Charles Daillot.
Présent.
Monsieur Hervé Bayard. Monsieur Bertrand Tortigue. Madame Marie-Christine Bourdieu. Madame Chantal Davidson. Monsieur Farid Eba. Madame Eliane D'Arteron. Madame Catherine Piquet. Catherine, pardon. Monsieur Jean-Paul Gantier. Madame Catherine Dupouille. Monsieur Gilles Chauvin. Madame Geneviève Dariosec, absente, donne pouvoir à Monsieur Charles Daillot. Madame Odette Di Lorenzo. Madame Anne Pita Dublanc. Monsieur Arsène Buchy. Madame Claude Taillé. Monsieur Jean-Marie Badby. Monsieur Michel Meige, absent, donne pouvoir à Madame Chantal Couturier. Madame Chantal Couturier.
Présente.
Madame Muriel Croze.
Présente.
Madame Chantal Plancheneau.
Présente.
Monsieur Guy Parella, absent, donne pouvoir à Madame Chantal Plancheneau. Madame Janine Lamaison.
Présente.
Monsieur Bruno Ruffia.
Il arrive.
Madame Pascale Horry.
Présente.
Monsieur Jean-François Lagouaite.
Présente.
Madame Stéphanie Chédad, absente, donne pouvoir à Madame Chantal Davidson. Monsieur Philippe Perrault. Madame Marina Bancon. Monsieur Antoine Vignotuc est présent. Monsieur Nicolas Tachon.
Présent.
Monsieur Renaud Laïtette.
Présent.
Monsieur Didier Simon.
Présent.
Madame Elisabeth Soulignac.
Présent.
Elle arrive, ok. Monsieur Renaud Lagrave.
Présent.
Il est là.
Il est là.
Il va vite. Monsieur Alain Bachet.
Présent.
Monsieur Jean-Michel Carrère.
Présent.
Madame Céline Piau.
Présent.
Et je crois que c'est tout.
Merci bien. Donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce conseil de reprise, on va dire ça comme ça, même si les vacances sont loin. Avant de démarrer l'ordre du jour...
Alors, il n'est pas sur la liste. J'ai pas sauté de ligne.
Ça fait partie de l'information que je vais vous délivrer dans exactement une minute. Donc juste deux, trois informations avant de rentrer dans l'ordre du jour. La première, c'est d'abord souhaiter la bienvenue à Jean-François Lagouaite, qui est ici. Alors c'est bienvenue, mais c'est un peu un retour aussi parce que tu connais cette assemblée, et qui remplace donc Thierry Soucaud-Diabert, démissionnaire. La deuxième, c'est vous parler rapidement d'Octobre Rose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de roses, y compris dans la ville, mais voilà, simplement vous dire que au-delà de cette communication qui se voit beaucoup, rappelez que derrière cette communication, il y a des messages, et je voulais me faire l'écho de ces messages-là, des messages liés à ce fléau qu'est le cancer du sein. Donc c'est vrai qu'il y a de la communication, mais derrière, il ne faut pas oublier la réalité. Et donc qu'on soit tous ici un petit peu unis derrière ce message-là, relayé à l'initiative des forces vives du Marsan, des commerçants de centre-ville, sur notamment ce fléau et puis la nécessité impérative de dépistage, plusieurs moyens de dépistage en fonction des âges. On a pas mal de soignants ici et de médecins qui connaissent ça mieux que moi. Voilà, je voulais pouvoir bien insister sur cette chose-là et dépasser simplement le côté un peu fun du rose. J'ai vu qu'il y a pas mal de roses, mais derrière, il y a des messages un peu forts là-dessus. Et puis la troisième, sans aucune transition, bien sûr, ben c'est vous dire que nous avons pris connaissance de la démission de Julien Antunes, effective au 29 septembre. La raison qu'il invoque, c'est un déménagement. Donc pour des raisons évidentes de délai et en accord avec la préfecture, il nous est impossible de proposer le suivant ou la suivante de sa liste sur cette assemblée ce soir. Donc ce sera le ou la remplaçante pourra être installée, le cas échéant, le prochain conseil municipal qui aura lieu le 7 novembre. Donc c'est nous, c'est au cabinet de contacter les suivants sur la liste, les suivants ou la suivante, pour siéger. Vous dire qu'il y a deux solutions. Si la personne accepte, alors c'est la suivante, hein, c'est une femme, forcément. Donc elle aura le droit, si elle accepte, de siéger au conseil municipal, mais par le biais en vertu de la règle parité homme-femme, elle ne pourra pas siéger en conseil communautaire. Il faut un homme pour siéger en conseil communautaire dans la parité. Donc il y aura un poste vacant. Si cette personne-là refuse, on fait appel au suivant, qui lui sera un homme et qui pourra siéger dans les deux assemblées. Voilà pour ce petit point de détail. Je voulais juste quand même en aparté vous dire que nous avions donc rédigé un courrier à la Fédération départementale du Front National pour faire en sorte que ce parti prenne ses responsabilités et les fasse prendre en demandant à Julien Antunes tout simplement de respecter son engagement pris en février 2017 quand il avait annoncé dans la presse qu'il démissionnerait. Et moi ici, je ne peux que me féliciter et se féliciter collectivement, et je tiens aussi à associer les oppositions à cette position commune qui fait qu'on a uni un peu nos forces pour peser dans cette décision. Donc je voulais vous en remercier ici collectivement. Je voudrais ici aussi profiter de cette occasion pour mettre en avant une situation qui doit quand même nous interroger, nous faire réagir par rapport à nos concitoyens aussi. C'est pas la première fois qu'un élu local de ce parti se moque des électeurs, en quelque sorte, capte des voix au moment de l'élection et puis en joue un peu sur les peurs et ensuite est aux abonnés absents. J'ai noté que plus de 30% des électeurs Front National locaux ont démissionné pour des raisons personnelles, déménagement, depuis 2014. Donc je pense que non seulement absents, les rares fois ils sont là, je n'ai pas noté de grandes remarques qui amenaient de la valeur ajoutée au débat. Enfin, si vous avez des souvenirs là-dessus, je suis preneur. Je trouve que c'est bafouer aussi un peu le respect de ces électeurs et galvauder tout simplement les principes de démocratie. Donc j'espère ici me faire l'écho fortement de cette situation, et puis éventuellement que ici, mais j'en suis sûr, mais qu'à l'extérieur aussi, tout le monde s'en souvienne pour le futur et les échéances peut-être futures. Et quand on voit le vide intersidéral qui se cache derrière les promesses de ce type de candidat. Voilà. Je refermerai la parenthèse, simplement vous dire, donc en effet, c'est l'explication pour laquelle nous sommes 38 au lieu de 39, c'est incomplet, on sera peut-être complet la prochaine fois. Sans transition, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez dû voir que vous aviez une délibération qui est la numéro 26 qui est sur table. C'est une délibération qui sera présentée tout à l'heure par Hervé Bayard. Il y a simplement un ajustement. On n'avait pas les références cadastrales d'un terrain. Donc je vous demande votre accord de pouvoir l'inclure dans notre déroulé. Je vous propose de passer sur les procès-verbaux. Il nous faut voter, approuver les procès-verbaux des séances du 30 juin et du 7 juillet. Donc vous en avez pris connaissance. Sur le procès-verbal du 30 juin, est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention, Madame Piau. Je vous remercie. Donc, voter à la majorité. Ensuite, sur le procès-verbal du 7 juillet, est-ce qu'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal du 7 juillet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, vous prenez connaissance du compte-rendu des décisions que le maire a été appelé à prendre par les mandats qui lui sont donnés entre le 12 juin et le 15 septembre. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons un certain nombre de délibérations, plus de 35. Beaucoup de délibérations sont plutôt des délibérations techniques. Donc je vous propose sans plus tarder de rentrer sur les premières délibérations concernant les marchés publics, finances, ressources humaines et urbanisme, sur les affaires juridiques. Donc vous avez vraisemblablement la délibération numéro 1. Il s'agit pour bon nombre d'entre elles de compositions de commissions municipales qui ont pu évoluer suite aux élections du 7 juillet dernier et aux éventuelles démissions ou réajustements. Donc je vous propose d'en prendre connaissance et de procéder à cette délibération. On votera commission par commission. Donc là, il s'agit de la délibération numéro 1 et la modification dans les compositions de commission municipale de l'éducation, jeunesse, politique de la ville, sport, solidarité, développement durable, démocratie locale, quartier, finances et affaires générales. Donc en ce qui concerne la commission éducation, jeunesse, politique de la ville, En remplacement de Cathy Piquet, je vous propose la candidature de Anne-Marie Pita sur la commission éducation, jeunesse et politique de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Donc on va valider point par point pour ne pas faire un vote global. Donc qui est contre cette candidature ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc c'est Anne-Marie Pita qui remplace Cathy Piquet dans la commission éducation, jeunesse, politique de la ville. Sur la commission sport, en remplacement de Charles Daillot, je vous propose la candidature de Nicolas Tachon. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ?
Michel Carrère souhaiterait participer à ma place à la commission sport. Si vous n'y voyez pas de difficulté.
Alors moi, j'y vois absolument aucun inconvénient de forme. On peut l'intégrer tout de suite. Ça évitera de refaire une délibération. Donc, sur la commission sport, je vous propose de noter et de modifier donc Nicolas Tachon en remplacement de Charles Daillot et Jean-Michel Carrère en remplacement de Renaud Laïtette. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la commission de solidarité, en remplacement de Cathy Piquet. Eh bien, il n'y a pas de remplacement à Cathy Piquet, c'est une erreur. Cathy Piquet reste dans cette commission, donc là, il n'y a pas lieu de voter. Sur la commission développement durable, démocratie locale et quartier, en remplacement de Thierry Socodiabert, je vous propose la candidature de Jean-François Laguaïte. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc, pour ce remplacement, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et enfin, pour la commission finances personnelles affaires générales, en remplacement de Charles Daillot, je vous propose la candidature de Pascal Horry et en remplacement de Thierry Socodiabert, la candidature de Arsène Buchy. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc le tout est voté à l'unanimité. Sur la délibération suivante. Là, il s'agit sur la délibération numéro 2 de désigner les représentants au CCAS suite aux modifications liées aux élections du 7 juillet dernier. Il y a 5 postes, donc en fait, c'est plus pour valider quelque chose qui existe déjà, puisque c'est inchangé. Les nominations dans l'ordre de liste unique présentée sont la liste est la suivante. Cathy Dupouille, Anne-Marie Pita-Dublanc, Muriel Croze, Nicolas Tachon et Didier Simon. Donc, c'est inchangé, il faut quand même le soumettre à votre délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 3. Donc là, il s'agit, toujours pareil, de modifier des représentations. Là, il s'agit de le faire au niveau de la régie des eaux et assainissements et de la régie des pompes funèbres et crématoriums. Donc je vous propose, suite à l'élection de Charles Daillot, à la démission de Thierry Socodiabert et l'intégration de Jean-François Laguaïte, je vous propose, en remplacement de Geneviève Darieussecq au titre de la régie des eaux, la candidature de Philippe Hérault, en remplacement de Geneviève Darieussecq. En remplacement de Thierry Socodiabert, la candidature de Jean-François Laguaïte. Il s'agit de la régie municipale des eaux. On va faire un tir groupé avec les pompes funèbres, même s'il n'y a pas beaucoup de rapports. Et au titre de la régie des pompes funèbres et du crématorium, en remplacement de Jean-Paul Gantier, Cathy Piquet. Y a-t-il d'autres candidatures ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 4, même chose. Là, on parle du syndicat mixte de l'Alpi, du conseil d'administration de l'IUT des Pays de la Dour et puis de la commission de suivi du site Société pétrolière de dépôt. Il s'agit du site qui est situé côté Céveso, là-bas, du côté de chez Portalais. Donc, pour suite à l'élection du 7 juillet, la démission de M. Socodiabert, il est proposé Philippe Hérault en remplacement de Charles Daillot. Ça, c'est pour l'Alpi. Et Jean-François Laguaïte qui prendrait la place de Philippe Hérault en tant que suppléant sur cette même instance. Donc c'est le comité du syndicat mixte de l'Alpi. Philippe Hérault pour remplacer Charles Daillot, Jean-François Laguaïte pour remplacer Philippe Hérault en tant que suppléant. Charles Daillot vous est proposé en remplacement de Geneviève Darieussecq au sein du conseil d'administration de l'IUT des Pays de la Dour. et Chantal Plancheneau en remplacement de Thierry Socodia-Béhère au sein de la commission de suivi de site pour la société pétrolière de dépôt. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Renaud Lagrave. Donc un vote sans... Oui, pour l'Alpia. Donc pas de vote de... Renaud Lagrave ne prenant pas au vote... Ne prenant pas part au vote de l'Alpi, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, je vous remercie, sur la délibération numéro 5. Là, il s'agit, même chose, de modification au sein du conseil local de la vie associative et de la commission intercommunale de la station d'épuration de Joannas. Nous vous proposons remplacement de Geneviève Dariussec au sein du conseil local de la vie associative, la candidature de Charles Daillot. Et en remplacement de Thierry Socodia-Béhère au sein de la commission intercommunale de la station d'épuration de Joannas, la candidature de Jean-Paul Gantier. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 6, pôle finance, affaires juridiques, là, on nous parle de la commission consultative des services publics locaux. On a des réunions régulières, la prochaine est le 14 novembre. Suite à la démission de Thierry Socodia-Béhère de cette commission, je vous propose la candidature de Jean-François Lagouaite. D'autres candidats ? Bon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 7, nous parlons de la commission liée au DSP, délégation de services publics. Donc... Donc ici, nous vous proposons, vous l'avez sur la page derrière, une composition qui prend la forme suivante, avec des membres titulaires que sont Jean-Paul Gantier, Hervé Bayard, Arsène Buchy, Philippe Hérault, Elisabeth Soulignac, et des membres suppléants que sont Chantal Couturier, Pascal Horry, Odette Di Lorenzo et Alain Bachet. En fait, en réalité, M. Bayard, qui était jusqu'alors suppléant, devient... titulaire. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 8. Il s'agit de désigner un correspondant de défense. Jusqu'à présent, c'était Thierry Socodia-Béhère, démissionnaire. Je vous propose la candidature de Chantal Plancheneau. Le correspondant de défense est quelqu'un qui nous représente... quand le maire n'est pas là, ou même quand le maire est là d'ailleurs, hein, auprès des instances de l'armée, bien entendu, base aérienne, CEAM, mais aussi de toutes les associations mémorielles, patriotiques, du souvenir. Donc c'est vrai qu'on a un tissu très très riche en la matière. Donc voilà, Chantal Plancheneau qui connaît bien tous ces domaines-là pour y avoir aussi travaillé à la BA 118, sera donc, je vous propose sa candidature comme... correspondante défense. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 10. Il s'agit de la signature... Je vais laisser la parole à Farid Eba. Il s'agit de la signature de la convention d'adhésion au plan communal de sauvegarde. La parole est à Farid Eba.
Oui, merci, monsieur le maire. Il faut tout simplement adhérer à une nouvelle convention proposée par le Centre de gestion de la fonction publique et territoriale des Landes qui prévoit la maintenance, la formation, le conseil et la mise à disposition de matériel. Alors, le défibrillateur de Saint-Roch étant hors service et comme nous devons le remplacer, et car il est essentiel dans le maillage de défibrillateurs sur la ville, alors nous profiterons de cette nouvelle convention pour disposer d'un nouvel appareil sur Saint-Roch. Et s'il y en a d'autres à remplacer après, pour 450 € TTC par an. Merci, monsieur le maire.
Merci, Farid Eba. Donc, c'est vrai que c'est une convention qu'on a signée il y a 2 ans à peu près. On avait décidé d'implanter donc, des défibrillateurs sur le domaine public. Je pense qu'on en a une vingtaine, c'est ça ? 22 ? Bon.
Et pour information, celui de Saint-Roch avait été offert par GRDF, qui avait des actions pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et nous l'avions offert il y a 5 ou 6 ans. Voilà.
Moi, j'ai la bonne information, mais je peux peut-être avoir une mauvaise information, c'est qu'on ne s'en est jamais servi.
Pas celui de Saint-Roch. Les pompiers sont très réactifs.
Délibération numéro 11, il s'agit d'un groupement de commandes des travaux de voirie Hervé Bayard.
Merci, monsieur le maire. Tout est indiqué dans le titre de cette délibération. Comme nous avons l'habitude de le faire depuis déjà quelques années, nous proposons à travers cette délibération de mutualiser le marché des travaux divers de voirie, une mutualisation qui s'opère entre la ville de Mont-de-Marsan et Mont-de-Marsan agglomération.
Donc sur cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Délibération numéro 12, il s'agit d'un groupement de commandes, je vais passer la parole à Pascal Horry.
Merci monsieur le maire. Il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de groupement de commandes qui sont annexées à la délibération. Il s'agit de groupements de commandes pour l'achat de papier et de groupements de commandes pour l'achat de fournitures de bureaux regroupant la ville de Mont-de-Marsan, le centre communal d'action sociale, Mont-de-Marsan agglomération, le centre intercommunal d'action sociale et les communes de Bougues, La Glorieuse et Mazerolles.
Merci Pascal Horry. Donc, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Philippe Hérault pour la délibération numéro 13 qui concerne l'informatique, les logiciels.
Oui, merci, monsieur le maire. C'est une délibération assez simple. Nous étions déjà prononcés sur une convention de groupement de commandes sur la fourniture de matériel informatique, logiciel et prestations associées entre le Marsan agglomération, la ville de Mont-de-Marsan, le CCAS et le CIAS. Néanmoins, dans cette convention initiale, il était prévu que le coordonnateur assurait la charge des frais de fonctionnement et des frais de publicité. Or, au vu du nombre de procédures qui ont été lancées par le groupement, les tarifs des avis d'appel, donc il a été jugé plus opportun de répartir les frais de publicité entre tous les membres du groupement. Et donc cet avenant que vous avez prend acte de cette proposition.
Merci Philippe Hérault. Par rapport à cette délibération, pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Sur la délibération numéro 14 dans le domaine financier, je vais vous la présenter. Il s'agit de décisions modificatives sur différents budgets. Tout d'abord, le budget de la ville, décision modificative numéro 3. On y voit donc des ajustements sur la section de fonctionnement sur la première page. Quelques explications ça et là sur les grands chiffres. On a un chiffre qui est 59 374 euros sur le poste 6280. Il s'agit d'un ajustement lié à une somme qu'on avait initialement provisionnée pour payer le CNAS, la nouvelle version du COS en quelque sorte. Le paiement n'a pas eu lieu sur cet exercice-là, donc il est décalé. Mais voilà, c'est cette somme-là, c'est juste un jeu d'écriture. Il y a également une écriture de 34 000 euros qui est un reversement lié à un dégrèvement de taxes d'habitation. On y voit également des créances et des créances éteintes ou des non-valeurs. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a une liste. Autres contributions sont des travaux du SIDEC supplémentaires. Quelques intérêts à régler. Là, il s'agit d'un ajustement où on avait fait supporter quelques intérêts de prêt à l'agglo alors que c'était à nous de les supporter. Donc il y a une régularisation. Et de l'autre côté, vous avez la taxe additionnelle des droits de mutation sur la première page, 45 000 euros. Il s'agit simplement de transactions et du fruit de transactions. D'ailleurs, ça peut être intéressant de noter que on avait prévu moins, donc on peut imaginer qu'il y ait une bonne surprise et un peu plus de transactions immobilières que prévu, puisqu'on a ces taxes additionnelles de droits de mutation en plus de ce qu'on avait prévu. Sur la page d'après, on est en section d'investissement, toujours sur le budget ville. Pas de remarques particulières. On voit souvent que ça s'annule entre recettes-dépenses. Je m'arrêterai sur les 115 000 euros. Là, c'est une écriture entre l'agglo et nous concernant la passe à poisson. Des changements d'imputation entre le poste 2313 et le poste 2301 sur 100 000 euros d'imputation. Ce n'est pas des choses en plus. Il y a 80 000 euros de travaux là, qui ont été impactés sur le poste 2313 en plus des 100 000 pour les opérations stade municipal Barbe d'Or. Je les vote une par une.
Une par une, les délibérations ou à la fin.
Donc je vais vous demander de vous positionner sur cette DM, qui, s'il y a des questions, Monsieur Bachet.
Je voudrais profiter de cette délibération, Monsieur le maire, pour vous interpeller sur une question qui a été posée à la au comité technique paritaire concernant, et c'est directement lié à notre budget, les emplois d'avenir. Vous avez répondu qu'il y en avait 6 et 5, vous avez répondu 6. Alors s'il y en a 5, vous allez donc rectifier et un CAE. Nous avions, lors d'un précédent conseil municipal, eu un débat sur les orientations et la ligne politique qui serait celle du nouveau gouvernement auquel appartient une des membres de notre conseil municipal. Elle nous a dit textuellement, je ne vais pas reprendre la virgule près, que se réjouissait qu'on allait avoir une ligne politique claire, que le 5 ans, on allait y voir, qu'on n'allait pas être comme sur le précédent gouvernement avec tout un tas de changements et d'incertitudes. Or, chacun a pu observer que, en guise de clarté, nous avions plutôt un peu de gribouillage au niveau de la communication et au niveau des orientations politiques. Donc je profite de cette délibération pour nous interpeller sur la situation qui est faite au niveau des collectivités. Nombre de collectivités et nombre de maires, aujourd'hui, se sont élevés sur les orientations politiques qui sont prises, notamment liées aux baisses de dotations qui vont au-delà de ce qui était annoncé, aux baisses d'aides, notamment au niveau des politiques de la ville, saura, que nous le voulions ou pas, des répercussions sur les politiques que nous pourrons mettre en œuvre dans notre collectivité, et ça aura aussi des conséquences sur le service public. Je pense qu'il serait bon que, dès ce soir, qu'on fasse œuvre et de mécontentement et de demande au niveau des politiques nationales pour, dans le cadre des dotations et des aides qui sont données aux collectivités. Je dis cela avec beaucoup de gravité parce qu'il y a plein d'incertitudes qui nous sont aujourd'hui qui sont devant nous. Et vous avez dit à la commission des finances, j'en ai pas parlé à mes collègues, mais quelque chose qui a attiré mon attention quand on va parler de la PCP de Boniface, vous nous avez dit on l'inscrit comme ça, mais c'est pas sûr que ce soit comme ça pour l'année prochaine. Sur les 1 700 000, ça veut dire que d'ores et déjà vous vous apprêtez à serrer la vis en termes d'investissement, en termes de dépenses publiques et pourquoi pas de services publics auprès des Montois et des Montoises et auprès des gens de l'agglomération. Donc je pense qu'il serait bon, si vous en étiez d'accord, qu'on manifeste notre mécontentement au niveau des décisions qui sont prises et des orientations qui sont prises du gouvernement, qui vont nous mettre, quelles que soient les tendances politiques que nous soyons, en difficulté et qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur les populations qui n'en ont pas besoin aujourd'hui. Je ne développe pas sur ce qu'est l'orientation du gouvernement en termes de choix politiques qui font la part belle à ceux qui ont beaucoup de moyens et pas ceux qui, aujourd'hui, suivent leur burnous pour gagner leur vie et ont des difficultés. Je ne parle pas des APL et tout ça. Tout est compris dans mon intervention. Je pense que ça serait bien que notre conseil municipal fasse preuve, comme d'autres l'ont fait, d'appel, d'interpellation sur ce qui se passe au niveau du gouvernement.
Merci, M. Bachet. Y a-t-il d'autres remarques ou prises de parole ? Prenons la tête. Donc, je vous répondrai après.
Voilà, si vous avez à répondre sur... Je voulais juste... Je vous ai posé l'autre jour cette question en conseil communautaire, mais est-ce que depuis, sur la ville, on a une idée des conséquences, des suppressions, des contrats aidés qui, comme vous le savez, sont fort utiles dans toute une série de secteurs et, évidemment, concernent tout le tissu associatif. Donc, est-ce qu'on a quelques données chiffrées sur cette question qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe beaucoup les acteurs locaux ?
Alors, je vais essayer de vous répondre en deux étapes. Mais avant de vous répondre, moi, je ne suis pas le porte-parole de Geneviève Darrieussecq ou du président Macron. Vous l'avez bien compris. Hein. Je vous le dis maintenant pour que ce soit clair pour les deux ans qui nous restent, ou trois ans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, je vais essayer de vous répondre, moi, sur des éléments factuels liés à notre collectivité. Donc je reviendrai sur ces éléments-là. Juste ce que, en l'état actuel de nos connaissances, sur la partie dotation de l'État, ce que je constate, c'est que ce qui est annoncé là était prévu dans le programme du candidat. Ça, c'est une nouveauté par rapport à ce que j'avais vécu les fois d'avant. C'est la première chose. Et je vois aussi que vous êtes plus enclin à parler du national là que sur le mandat précédent. Juste une chose, mais sans je vais essayer d'être de factuel. D'abord, on va avoir un débat d'orientation budgétaire au prochain conseil, le 7 novembre. On va après voter le budget, présenter le budget au vote. Nous, on a tenu compte dans nos prospectifs qu'il n'y a pas de baisse de dotation, les fameux 13 milliards d'euros, parce que ça concerne notamment les 319 collectivités les plus impactées ou les collectivités qui n'auraient pas un objectif en termes de capacité d'endettement et de certains ratios. D'accord ? Donc, sur ce sujet-là, l'aspect et nos projections, elles ne sont pas là-dessus. Donc, on a des sujets sur la taxe d'habitation, mais pas sur les dotations, puisque ça concerne les grandes communes. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le CAE, alors, la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais la chance, c'est qu'on est dans une collectivité. Ici, on est à la ville, mais à l'agglo, ça a été pareil, qui a été relativement vertueuse en la matière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas surutilisé ses dispositifs pour combler des besoins récurrents de CDI, de choses comme ça. Donc, ça veut dire que des CAE 5 ou 6, il faut que je regarde, mais je crois que c'est le chiffre qu'on a entre CAE et contrat d'avenir. Ça représente, ce sont des CAE dont les échéances arrivent à terme en mars, entre mars et juin 2018. Donc il y a en effet des questions qui seront à se poser, qui seront des questions qu'on traitera au cas par cas. Jusqu'à présent, on a plutôt stagiérisé nos CAE, et vous le savez. Donc on n'a pas une armée mexicaine de contrats aidés, ça c'est bien. Et je ne veux pas stigmatiser le secteur associatif, mais on a beaucoup plus de contrats aidés dans ces secteurs-là. Bon, là, on a, c'est, je veux dire, 5 ou 6 personnes sur la population que nous avons d'agents. Ce n'est pas insurmontable. Ça représente comme ça en charge à peu près 90 000 euros par an. Si demain, on stagiérise tout le monde, voilà ce que ça peut représenter de différentiel. Maintenant, on verra. Il faut que ça corresponde aussi à des besoins. Donc, permettez-moi de vous dire que ce sera au cas par cas, bien entendu. Mais on n'est pas dans des proportions catastrophiques, etc. Après, on a été voir les services de l'État pour savoir ce qu'il en était de l'avenir. Ce qui semble, c'est que les secteurs bien entendu, il y a une réduction de ces CAE, mais les secteurs qui sont sanctuarisés, entre guillemets, ça va être de mémoire tout ce qui est autour du handicap et de l'accompagnement du handicap. Il y a une dotation de CAE pour la Nouvelle-Aquitaine qui se décline ensuite dans les départements. Le handicap, les communes rurales qui ont de véritables difficultés financières, petits villages qui auraient vraiment des problèmes de ratio importants. Et j'en oublie un, peut-être les tranches de population qui sont pas loin de la retraite, où il y a un cliquet à faire de 1 ou 2 ans pour éviter une catastrophe. Voilà. Donc voilà les informations que j'ai de manière pragmatique sur les éléments. Donc, un, mes projections, mais je vous demande de réserver... On aura des débats sur le budget prochainement. Nous, on se projette plutôt sur des dotations qui restent équivalentes parce qu'elles concernent plutôt les grosses collectivités, sauf celles qui ne tendraient pas vers des ratios de capacité de désendettement à terme. Donc il y a tout un cheminement à avoir. Mais bon, pour l'instant, on a, en l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de réduction en ce qui nous concerne. Il y a des collectivités qui sont touchées, mais pas la nôtre, sur cet aspect-là, au moment où je vous parle. Je continue. Alors, je ne sais pas si on a voté cette délibération. Pardon, Renaud Laïtat.
Oui, nous votons contre pour être en cohérence avec notre vote sur le budget, bien sûr.
Donc, délibération, la première, donc la décision modificative numéro 3, qui est contre, alors en tenant compte des procurations, 1, 2, 3, 4, sur la ville, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 voix contre, qui s'abstient. Je vous remercie, c'est voté à la majorité. Je vous propose de passer à la délibération qui est liée au service de l'eau. Il s'agit là aussi d'ajustements qui n'appellent pas de grandes remarques. On y a souvent, vous savez, les créances admises en non-valeur, les créances éteintes, on verra ça après dans une autre délibération. Ce sont ces factures qui sont soit définitivement impayées, soit en cours de lettre. Voilà, donc sur l'investissement également, ce sont juste des jeux d'écriture ou d'affectation de poste. À moins que vous ayez des questions précises sur le sujet. Propose de délibérer. Donc sur la décision modificative numéro 1 concernant le service de l'eau, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante. Hop, il doit m'en rester une là. Service de l'eau, voilà. Et la délibération ensuite concernant le service de l'assainissement sur la deuxième page, donc au bas de page et puis ensuite. Là également, c'est une délibération où on s'aperçoit qu'il y a des équilibres entre dépenses-recettes, donc c'est des ajustements, des postes de dotation d'amortissement, quelques ajustements sur le matériel informatique concernant l'investissement, mais rien d'extraordinaire. Pas de remarques sur ces délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc là, on a voté l'ensemble des DDM sur cette délibération numéro 14. Je vous propose la délibération numéro 15. Donc là, il s'agit sur la délibération numéro 15 d'une modification de l'APCP Barbe d'Or. Donc on en a parlé tout à l'heure à M. Bachet, c'est quelque chose qu'on a évoqué en commission des finances. Donc là, il s'agit simplement de réétaler des crédits de paiement en fonction de l'avancement des travaux ou de la saisonnalité. Tout à l'heure, quand vous avez fait cette remarque, en fait, il ne s'agissait pas d'entériner telle ou telle décision, en tout cas pas d'arrêter tel ou tel projet, mais simplement, on est constamment dans une situation qui peut évoluer, où on peut très bien avoir des arbitrages à faire et démarrer un chantier avant l'autre. Hein ? On a plusieurs projets, vous le savez, je parle par exemple de l'auberge andaise, de Barbe d'Or, choses comme ça. Peut-être qu'il y aura des ajustements, mais ça, je vous propose de le découvrir lors de nos orientations budgétaires et du budget qu'on vous proposera. Sur cette délibération et sur l'APCP, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Une abstention, pardon, Madame Piau. Donc c'est voté à la majorité. Délibération numéro 16, je vais passer la parole à Chantal Couturier sur les créances éteintes. Chantal Couturier.
Oui, monsieur le trésorier principal d'agglomération nous a informé qu'il n'a pu procéder au recouvrement de certaines recettes datant des exercices précédents. Le recouvrement de ces créances étant impossible, les crédits correspondants seront inscrits à l'article 6542 créances éteintes pour un montant de 28 617,04 euros en ce qui concerne le budget principal de la ville, pour 15 160,71 euros pour le budget de l'eau, et de 18 499,68 euros pour le budget assainissement.
Merci. Donc là, il s'agit d'une délibération classique. Je vous propose de passer au vote à moins que vous ayez des questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 17, Chantal Couturier, on est dans le même format.
Voilà, donc le trésorier principal donc transmet périodiquement des états d'admission à non-valeur concernant certaines recettes dont il n'a pu enregistrer le recouvrement pour divers motifs. En l'espèce, il s'agit de l'impossibilité de recouvrer certaines recettes datant des exercices précédents. Ces crédits correspondants seront inscrits à l'article 6541 créances admises en non-valeur pour un montant de 23 186,62 euros pour le budget principal ville, pour 50 300,49 euros pour le budget de l'eau et pour 50 446,10 euros pour le budget assainissement.
Merci. Sur cette délibération classique également, y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération numéro 18, je vais laisser la parole à Jean-Paul Gantier. Il s'agit du budget annexe service de l'eau et de reprise sur provision. Jean-Paul Gantier.
Merci, Monsieur le maire. Donc, le service de l'eau, au cours des années passées, avait constitué une provision d'un montant de 151 697,78 euros. Il convient de reprendre une partie de ces provisions parce que il y a des créances qui n'ont pas pu être couvrées par les services du centre de finances publiques. Il est demandé à l'Assemblée de reprendre une partie des provisions pour dépréciation pour un montant de 42 500 euros. Ça se fera dans la section fonctionnement en recettes en 78-17 et pour 42 500 euros. Ces opérations sont prises en compte dans la DM numéro 1. Il est donc demandé de prendre position sur ce sujet et de l'approuver. Le conseil d'exploitation de la régie des eaux a été réuni et en a parlé lors de la réunion du 20 septembre. Et ce sujet a été aussi évoqué à la commission des finances qui a eu lieu le 29 septembre.
Merci. Des questions sur cette délibération ? Je vous propose de la passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Jean-Paul Gantier pour la délibération suivante. Toujours pareil, là, il s'agit de service assainissement.
Alors, même type de délibération. Le service assainissement avait provisionné 162 766,04 euros. Pour les mêmes raisons que précédemment, il convient de procéder à une reprise d'un montant de 46 000 euros qui s'effectuera sur la section fonctionnement en recettes en 78-17 pour ce montant de 46 000 euros. Les avis du conseil d'exploitation ont été pris le 20 septembre. Les avis de la commission de finances ont été pris le 29 septembre. Il vous est donc demandé d'approuver ce qui figurera dans l'ADM.
Merci Jean-Paul Gantier. Des questions sur cette délibération ? Pas de remarques. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la prochaine délibération, je laisse la parole à Chantal Davidson. Il s'agit de l'attribution d'une aide aux élèves montois de l'école de musique IDEM. Chantal Davidson.
Merci Monsieur le maire. Donc, si vous vous souvenez, en avril 2017, nous avions proposé cette délibération. Donc une aide aux élèves montois de l'IDEM. Donc cette délibération avait été retirée de l'ordre du jour, puisqu'il me semble que c'est M. Carrère qui avait donné comme argument que ça risquait de faire un précédent. Donc c'était mais à l'époque, en avril 2017, c'était une subvention qui était donnée à l'IDEM. Donc on a retravaillé la question. Maintenant, c'est une bourse qui va être versée aux enfants montois qui vont faire de la musique donc et de la pratique instrumentale à l'IDEM. Nous ne sommes pas la seule commune, enfin on était la dernière à ne pas le faire, puisque toutes les autres communes de l'agglomération versent cette bourse. Donc les autres communes de l'agglomération versent 70 euros. Nous, on est passé à 50 euros parce qu'on a un petit peu plus d'enfants, évidemment, que les petites communes de l'agglomération. Bon, je suis allée un petit peu plus loin aussi. Vous savez qu'on donne 250 000 euros au conservatoire hein, pour à peu près 250 enfants. Donc, je me disais que, effectivement, un enfant montois qui fait de la musique au conservatoire coûte à la ville 1 000 euros. Alors là, on vous demande 50 euros. On pense que c'est quand même pas énorme. Et puis, ça peut permettre à des enfants qui ne peuvent pas aller au conservatoire de pratiquer la pratique instrumentale et le solfège, donc dans une autre école, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que là, puisque normalement, c'est pour une trentaine d'enfants. Et le conservatoire ne pourrait pas absorber cette augmentation d'effectifs. Voilà. Et puis, bon, je me suis dit que je suis allée voir un petit peu les associations qu'il y avait à Saint-Pierre-du-Mont. Donc, c'est des associations sportives ou culturelles, mais il y a les mêmes à Mont-de-Marsan. Donc, un enfant montois qui irait faire du rugby ou du football à Saint-Pierre-du-Mont, il pourrait très bien en faire à Mont-de-Marsan. Tandis que là, ben, en fait, la seule différence, c'est que ces enfants-là ne peuvent pas aller au conservatoire. De toute façon, c'est beaucoup plus cher aussi pour les familles.
Merci Chantal Davidson. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, Jean-Michel Carrère ?
Non, mais c'est simplement, Monsieur le maire, nous sommes satisfaits que notre remarque ait été entendue et qu'effectivement ce soit versé directement aux familles. Ça évite tout précédent avec une association d'une autre commune.
Bien, très bien, on est d'accord alors. Non, c'est vrai qu'on a tenu compte de ce point-là. Il y a 51 élèves. Je me suis laissé dire qu'il y avait 51, un peu moins. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on est attaché quand même à maintenir ce contact et à laisser l'accès. Tous les élèves ne vont pas au conservatoire. Et puis l'IDEM peut aussi déverser, entre guillemets, quelques musiciens dans des musiques vivantes ou des musiques de riz, peut-être un peu moins. Voilà. Donc ça permet d'avoir une offre un peu complémentaire aussi. Donc sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la numéro 21. Je vais laisser la parole à Jean-Paul Gantier. Il s'agit du personnel titulaire et tableau et stagiaire de la fonction publique territoriale. Jean-Paul Gantier.
Donc, il s'agit d'une délibération classique hein, qui concerne la mise à jour de nos tableaux d'effectifs en emploi à temps complet et en emploi à temps partiel. qui permettent le fonctionnement des services. Alors ça concerne des créations d'emplois, ça permettra de nommer par promotion interne 2 agents, ça concerne 1 poste d'agent communal qui pourra se traduire par un recrutement. Ensuite, des nominations suite à réussite à concours, ça concerne 3 agents de maîtrise et un emploi de gardien brigadier de police. Et puis ensuite, on a les évolutions d'emploi pour avancer dans les grades. Dans le budget de la ville, ça concerne 45 emplois au total dont vous avez le détail. Sur le budget de la régie des pompes funèbres, ça concerne 4 emplois dont vous avez le détail. Sur le budget de la régie du stationnement, ça concerne 2 emplois. À la régie des eaux, ça concerne 2 emplois, dont un emploi d'ingénieur principal qui devient ingénieur hors classe. Sur le budget de la régie de l'assainissement, ça concerne 3 emplois. Et puis ensuite, on a également des sujets qui touchent au changement de filière. Une personne qui passe de la police vers la filière technique pour occuper un emploi d'agent de maîtrise. Et ensuite, nous avons des suppressions d'emplois, soit parce qu'un agent a bénéficié d'une évolution, soit parce qu'un autre agent a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par quelqu'un d'un autre grade, ou parce qu'un agent a bénéficié des droits à la retraite après invalidité et après congé de longue durée. Donc il vous est demandé de valider cette mise à jour des tableaux d'effectifs.
Merci Jean-Paul Gantier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Délibération 22, il s'agit de la mutualisation du cabinet entre la ville de Mont-de-Marsan et l'agglomération. C'est une délibération qui est également passée côté aglo. Vous en dire un mot, simplement vous dire que le cabinet qui était là a eu une aspiration professionnelle très parisienne. Et donc ça m'a permis aussi de rencontrer puis de recruter 2 personnes une personne qui vient de l'extérieur, qui est Quentin Roussy, qui est ici présent, qui est collaborateur de cabinet, et Bertrand Lamont, qui était à la DGS aux côtés de Caroline Dezègue, qui est juste derrière moi, et qui descend d'un étage pour venir remplacer poste pour poste. Les profils ne sont pas forcément les mêmes, mais pour venir étoffer l'équipe du cabinet. Et je suis en passe de recruter un directeur de cabinet mutualisé Villaglo, qui remplacera Bernard Moncoussi, qui lui également est parti sur Paris en début de mois de septembre. Donc tout ça pour vous dire que c'est dans une volonté aussi de faire bénéficier à la fois aux élus villes et aux élus agglo de ce service-là, et d'avoir des contacts qui soient vraiment mutualisés. De vous dire également que c'est quelque chose qui doit bénéficier aux élus des 18 communes, sans se substituer non plus aux secrétaires de mairie, enfin qui mettent du lien au niveau des communes, dans un souci d'ISO effectif et d'ISO masse salariale. Et donc voilà ce qu'il vous est proposé de voter aujourd'hui, avec donc une configuration avec un directeur de cabinet mutualisé Villaglo en cours de recrutement et 2 collaborateurs de cabinet avec des répartitions des tâches et des profils différents. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Donc contre, on a 2 voix. On a M. Bachet et Mme Piau. Qui s'abstient ? Donc, je vous remercie. Donc, c'est voté à la majorité. Sur la délibération numéro 23, je vais laisser la parole à Hervé Bayard concernant la passe bicycle sur la 12. Hervé Bayard.
Merci, M. le maire. Donc, il s'agit en effet d'un ouvrage qui a été réalisé à la Confluence, qui permet aux poissons de remonter la rivière et aux canoës de la descendre. La ville de Mont-de-Marsan a confié à la communauté d'agglomération la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'une passe à poissons relevant de la compétence communale. Jusqu'à présent, deux avenants ont été signés dans le cadre de cette convention. Il s'agit dans cette délibération d'adopter un 3e avenant qui prend acte du plan de financement. Le plan de financement se détaille de la façon suivante. Les montants des dépenses atteint 323 044 €. TTC, le montant total des subventions, c'est-à-dire Agence de l'eau à Dour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et des fonds émanant du FEDER. Les subventions, donc, correspondent à 161 345 €.
Je vous remercie. Hervé, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'était la délibération numéro 23. Elle est votée à l'unanimité. Hervé Bayard, délibération 24. Il s'agit d'une cession.
Alors, il s'agit en effet d'une cession. Il s'agit du terrain occupé aujourd'hui par anciennement la FALEP, qui est devenue la Ligue de l'enseignement des Landes. La ville de Mont-de-Marsan a conclu avec cet organisme un bail emphytéotique en 1975 visant à mettre à disposition le terrain concerné, 6 122 rue du Général de Lobitte, pour la construction de son siège. Le bâtiment construit à l'époque sur trois niveaux d'une superficie de 738 m² n'est désormais plus accessible, ne répond plus aux normes d'accessibilité. Ainsi, la Ligue de l'enseignement a donc envisagé un déménagement. En parallèle, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan était à la recherche de foncier à proximité de son site pour l'implantation de bâtiments techniques. Ainsi, la Ligue de l'enseignement a accepté la proposition d'acquisition du centre hospitalier. Sachant que le bail emphytéotique est toujours en vigueur, l'hôpital devra acheter les droits au bail à la Ligue de l'enseignement concernant le bâtiment et ceux de la ville de Mont-de-Marsan concernant l'emprise foncière. Ainsi, dans cette délibération, il vous est demandé donc de procéder à la cession par la ville de Mont-de-Marsan de ses droits. Donc, en contrepartie, le centre hospitalier donc versera à la ville de Mont-de-Marsan pour l'acquisition des droits du bail emphytéotique une somme de 143 000 €.
Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Des remarques particulières ? Pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dans le même ordre d'idée, Hervé Bayard, sur une acquisition à titre gratuit d'une parcelle, délibération numéro 25.
Bon, alors là, c'est une régularisation, excusez-moi, dont il s'agit dans cette délibération. Il s'agit du trottoir Place Panco au droit du magasin d'encadrement. Donc cet espace appartenait à M. Frédéric Pazobon, bien qu'il s'agisse d'un trottoir. Donc il s'agit simplement d'une régularisation à titre et d'une cession à titre gratuit à la collectivité.
Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 26. C'est la délibération que vous aviez sur table. Il y a juste un ajustement qui est donc les références cadastrales. Hervé Bayard.
Alors là, il s'agit d'une intégration de voirie. Il arrive par moment du fait de non-mise à jour administrative que des espaces publics appartiennent à des privés, à des particuliers. Et donc là, il s'agit de la parcelle BN 2633, 6 avenue de la Houne, qui appartient à Madame Céline Isaac Mansissidor. Et donc, il est opéré une régularisation, à savoir que cette parcelle donc intégrera le domaine public.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Donc, pour cette délibération, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 28, Hervé Bayard.
Donc on continue, c'est la 27 là. Je veux bien faire la 28, mais on 27. Va d'abord faire la 27. Donc là toujours, il s'agit de régularisation. À chaque conseil municipal, on a ce genre de délibération. Donc là, il s'agit de transférer des parcelles dans le domaine public communal. Donc il s'agit de la BC numéro 3 boulevard du Nord, de la BM 1429 impasse des Faisans, de la BC, bon enfin vous en avez toute une série. Donc je vous laisse en prendre connaissance.
Questions sur cette délibération ? On la propose au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc la 28, Hervé Bayard.
Donc là, il s'agit tout simplement de donner un nom à une voie nouvelle au lieu dit Malage. Donc le chemin desservant l'aire d'accueil des gens du voyage de Malage n'a jamais été dénommé. Celui-ci relie la rue Monge à la rue de la ferme de la Rouquère. Ainsi, il est proposé de dénommer cette nouvelle voie chemin de Menjotte, en référence à un ancien lieu dit à proximité indiqué sur les plans napoléoniens.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération ? Pas de questions. Donc je vous propose au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ce ne sont pas des délibérations cruciales, en effet. Le numéro 20, la délibération 29, Hervé Bayard.
Donc là, il s'agit tout simplement d'une impasse, l'impasse de la Croix-Blanche, qui appartenait au domaine public. Et donc, il a été proposé, qui n'a plus aucune raison de rester dans le domaine public. Et donc, il a été proposé aux riverains de faire l'acquisition donc, de cette impasse, qui est très étroite, puisqu'elle ne mesure que 1,40 m de large et 78 m de long. Donc, les riverains ont été sollicités, ils ont donné leur accord, et donc, la ville se propose donc de céder à ces riverains des surfaces de l'ordre de 14 mètres carrés. Ça va de 7 mètres carrés jusqu'à 18 mètres carrés.
Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. La délibération numéro 30, Hervé Bayard, il s'agit de l'OPA-RU.
Alors là, il s'agit d'un dossier de subvention de l'OPA-RU. Donc l'OPA-RU, c'est une opération qui permet de réhabiliter des logements en centre-ville. Donc vous connaissez ce processus. Dans cette délibération, il s'agit tout simplement d'un ensemble de 5 logements situés 3 impasse de la Poste, c'est-à-dire juste en face de la mairie. Le montant de la dépense subventionnable par la ville s'élève à 67 465 euros et le montant de la subvention est de 7 343 euros.
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Délibération numéro 32 sur l'enquête publique relative à l'autorisation...
Non, 31.
31, je vais aller trop vite. Cession d'un logement, Hervé.
Donc, régulièrement, nous cédons à des particuliers des logements appartenant à la ville. Nous donnons la priorité en général aux locataires, mais des fois, nous avons des appartements qui n'ont pas de locataires, qu'ils sont vides. Donc, nous les proposons en priorité aux agents municipaux. C'est le cas ici. Donc, il s'agit de céder un T3 qui se situe 8 impasse Eugène Dauba. Cette cession s'effectue au bénéfice de Madame Marion Monteau. L'appartement fait une surface de 60 mètres carrés sur un terrain de 151 mètres carrés. Et la cession s'effectue au prix de 52 000 euros.
Question sur cette délibération ? Remarque particulière ? Non ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La 32, Hervé Bayard.
Alors le SICTOM a comme projet de créer sur le site de la Rouquère donc une grande déchetterie qui regrouperait en effet les déchetteries du Battant et également de l'Oranger. Donc pour la création d'un tel équipement, il convient de mener une enquête publique et dans cette délibération, la collectivité, la ville de Mont-de-Marsan, émet un avis favorable.
Merci. Donc sur cette délibération, y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc avant de laisser la parole à Jean-François Lagouët, là il s'agit de la délibération numéro 33. C'est l'adhésion à l'association médiation de l'eau. Jean-François Lagouët.
Dans le domaine particulier de l'eau potable, une médiation nationale a été mise en place et la régie municipale de l'eau et de l'assainissement de Mont-de-Marsan souhaite ainsi s'associer à la structure médiation de l'eau. C'est d'ailleurs le seul médiateur existant actuellement pour l'eau. Juste une petite information, hein, évidemment, le but c'est de régler de façon amiable les litiges. Seul le consommateur est habilité à saisir le médiateur et le recours à la médiation ne peut intervenir qu'une fois tous les recours internes à la régie municipale des eaux et d'assainissement effectués. Il est précisé que le coût annuel de l'adhésion à cette association est de 500 euros hors taxes qui seront imputés sur les crédits à ouvrir sur le budget OE et celui de l'assainissement, chapitre 11, charges à caractère général, article 62-81, concours divers, cotisations. Donc cette délibération vous demande d'approuver cette adhésion et les termes de la convention afférente et de préciser donc que ces 100 euros seront pris en charge sur le budget dont je viens de parler. Et enfin, que le règlement de la régie municipale des eaux et de l'assainissement sera modifié afin d'informer le public de cette possibilité d'avoir accès à une médiation.
Merci Jean-François Lagouy. Des questions sur cette délibération ? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Hervé Bayard, c'est pour la servitude de terrain de M. Destefen.
Donc M. Destefen là, souhaite viabiliser un terrain 6 à Mont-de-Marsan, rue du Péglé. Il a obtenu pour cela un certificat d'urbanisme et il souhaite diviser donc cette parcelle en 4 lots. Sur les lots C et D, passe un gros égout construit par le service d'assainissement dans les années 80. Donc ce collecteur est en bon état et son déplacement n'est pas justifié par sa vétusté. Monsieur Destefen donc estime à 5300 euros le préjudice lié à la présence de l'ouvrage. Cette estimation est recevable dans la mesure où le coût des travaux pour le déplacement de cet ouvrage en bon état serait bien plus important. Donc monsieur Destefen demande donc que lui soit versée la somme de 5300 euros à titre d'indemnité. Monsieur Destefen s'engage en contrepartie à faire inscrire dans les actes de vente notariés des terrains C et D la servitude de passage.
Merci Hervé. Des remarques particulières ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sur la dernière délibération, Hervé Bayard, concernant monsieur Ferrier.
Donc, dans le cas de la construction d'une canalisation de liaison entre le forage GMMM2 et le bassin de stockage des eaux issues de la géothermie sur la commune de Mazerolles, les entreprises sont intervenues sur une parcelle appartenant à M. Ferrier. L'intervention sur cette parcelle de blé a créé une perte de récolte. Et donc, il a été proposé une indemnisation financière pour un montant de 218,40 euros, soit 262 euros TTC. Et donc, M. Ferrier a accepté cette indemnisation.
Merci. Sur cette dernière délibération, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Qui est une question ? Renaud Lagrava. Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? J'ai un voisin qui me dit : tu vas battre le record d'une heure.
Non, vite.
J'y arrive pas. Non, je compte sur... Donc, qui est contre, pardon ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie. On en a fini avec cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions ou des prises de parole ? Renaud Lagrava.
Oui, monsieur le maire, moi, je voudrais intervenir, même si j'aurais dû vous envoyer le sujet, mais je n'ai pas forcément eu le temps, pour vous dire que, comme vous le savez certainement, samedi matin à 10h à Castelnau-Chalosse, il y a une grande manifestation de soutien aux éleveurs dans le cadre de la crise aviaire qui a été à l'appel d'un certain nombre d'élus, de collectivités territoriales, de l'ensemble des syndicats. J'ai compris qu'il y a un certain nombre de chambres consulaires qui allaient s'associer. Moi, je souhaiterais que ce soir, puisqu'on est réunis en conseil municipal, on appelle collectivement à participer à cette manifestation pour soutenir les éleveurs, parce que je considère aujourd'hui qu'il semble, en tout cas après avoir reçu les syndicats la semaine dernière avec le président du département, il y ait un manque de 30 millions d'euros sur lequel le ministre refuse de donner, en tout cas pour l'instant, et visiblement il ne connaît pas encore tout à fait bien le sujet de cette filière dans les Landes, et que je pense que 30 millions d'euros pour... aujourd'hui, un certain nombre d'éleveurs, ça veut dire clairement la fin de la filière pour les Landes. Alors peut-être que certains s'en réjouissent, mais il faut juste que tout le monde ait en tête que c'est aujourd'hui la première activité industrielle, et notamment dans cette agglomération à travers des entreprises qui sont mondialement connues. Et si demain, il devait plus y avoir de production à l'échelle des Landes, il faut que chacun mesure que, à la fois le département, mais notre territoire aussi, sera très fortement impacté. Donc je suggère à la fin de ce conseil municipal qu'on puisse faire un appel collectif, ou en tout cas que la municipalité réunie tel jour, telle heure, machin, tout ça et tout. Enfin bon, bref, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux placés que moi pour rédiger tout ça. Appel à manifester samedi matin à 10h à Castelnau-Chalosse. Je vous remercie.
Y a-t-il d'autres... Je vous réponds. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc sur ce... J'ai reçu le mot d'ordre. Moi, j'ai prévu d'y aller personnellement, mais après, j'ai prévu également de le diffuser dans les boîtes à lettres. De là en faire quelque chose d'officiel sur notre PV, c'est un autre débat. Mais bon, on est... Oui, oui. On est quand même tous plus ou moins liés directement ou indirectement à cette filière. Il y en a parmi nous là qui sont directement issus de familles d'agriculteurs ou autres, donc ils sont particulièrement sensibles à ce qui se passe. Donc voilà, je peux que aller dans ce sens-là. Après, la liberté individuelle, moi je vais diffuser l'information et le lieu et voilà. Donc je le dis là ouvertement, chacun aura l'information. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Pas de remarques. Donc simplement vous dire et vous rappeler, alors c'est à l'initiative, je ne vais pas dire de qui, mais donc mesdames, vous avez une fleur rose, c'est pas uniquement pour le rose, c'est aussi pour qu'on puisse là aussi soutenir cette cause-là et ce fléau concernant le cancer du sein. Je suis pas un soignant professionnel, mais il y a sûrement plein de techniques de dépistage et autres. Donc, au-delà du rose et du fun qu'on a en ville, à l'initiative de nos commerçants de centre-ville, voilà, c'est aussi soutenir ce message-là, notamment sur le dépistage. Je vous remercie. La séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée.